Bonjour chers amis auditeurs, nous nous retrouvons à Bégousse pour une deuxième émission avec grand plaisir. Nous retrouvons Bernard Miguerou, bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour à tous.
Et bonjour Jean.
Bonjour.
Jean de Chalin, dont nous avons présenté sur la première émission. Alors là, nous nous trouvons dans la sacristie. Et il y a des petits trésors dans la sacristie. Nous avons, avec l'autorisation de Bernard, bien sûr, ouvert les placards. Et nous avons trouvé, dans un premier temps, des statues. Alors, que représenteraient ces statues, Marie-Madeleine et Bernard?
Alors, nous avons probablement une Sainte Anne, qui est debout, qui est en train de marcher. Elle a la main sur le cœur. Et une autre main qui l'aide à marcher, si vous voulez, un peu en dehors du corps. Bon, et à mon avis, ça serait peut-être une Sainte Anne dans la représentation de sa rencontre avec son époux Joachim à la porte dorée de Jérusalem, suite à des songes qu'ils ont reçus tous les deux séparément, comme quoi, s'ils veulent avoir un enfant, eh bien, il faut qu'ils se retrouvent à la porte dorée. Pour cela, ils attendent avec impatience depuis 20 ans d'avoir un enfant. Et ça n'arrive pas, donc ils sont désespérés, et l'un et l'autre, parce qu'ils sont mal vus par la société de l'époque. Et donc je pense que cette statue se réfère sans doute à cet épisode. Il devait y avoir un Saint Joachim en face d'elle, mais il n'est plus là.
Et Bernard, concernant la statue de Sainte Anne, il y avait une tradition sur Bégousse.
Alors, cette statue était certainement vénérée à Bégousse, puisque notre chroniqueur très précieux du village, Michel Sélarier, raconte qu'à la fin du XVIIIe siècle, au moment où sévissait une forte sécheresse, et la sécheresse qui inquiétait beaucoup les agriculteurs, les femmes du village ont émis l'idée d'aller plonger la statue de Sainte-Anne dans le Lot pour demander la pluie, ce qui leur a valu beaucoup de remontrances du curé, qui était à l'époque le curé Lugan, qui était un personnage éclairé et qui trouvait que c'était simplement de la superstition.
Oui, donc je rappelle que Michel Sélarier, nous en avions parlé dans la première émission. Et il y a également à côté une deuxième statue, assez particulière d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'elle pleure.
Alors, c'est une statue en bois qui représente une personne féminine assise de face. La main gauche posée sur la robe, qui est verte avec des petits ornements dorés. Et de la main droite, elle tient une sorte de mouchoir à bord doré, et elle le tient en dessous de son menton. Mais son visage très très triste, elle a les yeux baissés, elle a un peu la bouche fermée, enfin très très triste. Moi, ça me fait penser à une des saintes femmes au pied de la crucifixion ou au pied de du corps de Jésus lors de la déposition et la mise au tombeau. À mon avis, c'est ça, ça serait ça, parce que à l'arrière, si vous voulez, c'est plat, hein, la statue est plate, et elle devait être posée sur une sorte de rétable avec d'autres personnages.
Oui, elle est en bois d'ailleurs.
Elle est en bois, et à mon avis, ça date du 16e siècle.
Hein. Ah quand même,
oui,
ça date bien plus longtemps que la statue qui est à côté.
Tout début 17e, mais voilà, dans cette période-là. Et elle est en bois peint. C'est assez original comme
statue. Et donc la statue qui pourrait être attribuée à Sainte Anne date à peu près de quelle époque?
Elle est plus récente, elle doit dater du début du 19e.
D'accord. Alors au hasard dans les placards, nous avons deux petits reliquaires, Marie-Madeleine.
Oui, ce sont des reliquaires donc 19e dans la tradition néo-gothique. Et donc il y en a un plus petit que l'autre, enfin tout est relatif, qui ne comporte pas de reliques. Il y a simplement la monstrance, si on, hein, c'est un mot savant qui veut dire montrer, pour montrer les reliques. Et l'autre donc est pourvu de reliques.
Sont miniatures.
Très infimes, très infimes, oui, puisque très nous petit. Avons des mini-os, si j'ose dire, de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Louis de Gonzague. Et alors, il y a aussi un extrait d'un vêtement, mais alors je ne sais pas qui est BMV, donc je ne sais pas qui c'est. Peut-être dans les archives de l'Église c'est mentionné, mais je l'ignore.
Mmh. Donc deux très jolis petits reliquaires. Et alors, nous avons ouvert ce qui recouvre ce magnifique ostensoire. Alors, c'est un ostensoire qui date de quelle époque, Bernard ?
Il est daté puisque son étui porte la date de 1862, mm-hmm. avec la mention « Don de Sa Majesté l'Empereur Napoléon III ».
Ouh là là !
Voilà.
Très bien. Alors, Marie-Madeleine, quelle particularité pour cet ostensoire qui est magnifique, effectivement ?
Alors, c'est un ostensoire, on en trouve beaucoup dans les églises, hein. C'était traditionnel de montrer le corps du Christ lors d'ostension, hein, et lors d'adoration. On le fait toujours, d'ailleurs. Donc, c'est un ostensoire qui est en argent, recouvert d'une légère pellicule d'or, c'est ce qu'on appelle le vermeil, et comme tout métaux précieux, eh bien il est poinçonné, alors pour les spécialistes, avec le poinçon de la Minerve, qui était la déesse de la guerre, la tête de Minerve, qui est tout à fait de l'époque Napoléon III, hein, puisque cette Minerve a commencé en 1838, donc et qui existe toujours. À notre époque, mmh. les objets en métaux précieux de notre époque sont estampillés également de la tête de Minerve en argent.
Alors, Jean de Chanin, donc Jean, au niveau de tout ce qui est reliquaire et autres objets importants du culte qui également peut devenir du culturel. C'était important, je pense, de les montrer ou tout au moins de faire des expositions. Est-ce que quand vous étiez au comité départemental du tourisme, vous avez eu justement à mettre en place ce genre de choses,
hein? Non, pas directement, mm-hmm. mais c'était plutôt en termes de communication que on réagissait pour attirer la clientèle touristique sur des sujets culturels, mm-hmm. et cultuels en l'occurrence.
Oui, oui, d'accord. Alors, nous allons sortir de la sacristie et nous allons nous rendre sur près des chapelles, des deux chapelles. Donc, nous nous trouvons dans la chapelle dite chapelle Saint-Martin, donc qui est quand nous sommes face au chœur, qui est à sa droite. Et nous sommes attirés par la lumière, bien sûr, et par ce vitrail tout de suite que nous voyons. Qu'est-ce qu'il représente ?
Alors, l'église est consacrée à Saint-Martin, et nous voyons sur ce vitrail, qui est de la fin du 19e, la mort de Saint-Martin, qui est assis dans un lit, enfin sur une paillasse, hein, sur une paillasse, donc il est assis, il tient la croix dans ses mains, et il a une sorte de bure grise avec une croix sur le pectoral. Et au fond, on voit sa crosse et sa mitre en tant qu'évêque de Tours. Mmh. Il est entouré donc de trois moines qui prient à genoux devant lui. Il n'est donc pas encore tout à fait mort, je pense, c'est son agonie, hein. Et il y a un cierge qui brûle également, une croix posée contre un mur, et puis une petite fenêtre qui ouvre sur une perspective de château ou de village tout à fait au fond. Alors les couleurs sont très vives, mm-hmm. Y a du rouge, il y a du violet, il y a du marron, du vert aussi, voilà, c'est un vitrail assez vivant malgré le sujet. Mmh. Voilà. Et donc il a été donné par une famille locale, les Bicamps.
Oui, Bernard va nous en dire deux mots. Oui.
Et aussi donc par la famille Bicamps, qui était une famille notable du lieu de Bégousse, et par le curé de l'époque qui était Monsieur Castagnier.
Voilà, donc c'est effectivement dans beaucoup d'églises il y a beaucoup de dons de cet ordre et c'est toujours spécifié en bas ou en bas du vitrail ou à un endroit précis du vitrail. Donc, il a été un tout petit peu abîmé, Bernard, je crois, par un élément.
Par un orage de l'orage de 2016-2017.
D'accord.
Un orage de grêle qui a été assez violent et qui fait ressortir qu'il nous manque des grilles de protection extérieure, de protection des vitraux.
D'accord.
Si on avait eu un grillage,
ça se serait pas produit ou vraiment pas à cette échelle. Ouais. Alors, tout de suite à la gauche du vitrail, nous apercevons un tableau très grand tableau, Marie-Madeleine.
Oui, un tableau un peu monumental qui représente Saint-Martin sur son cheval, partageant son manteau de soldat romain pour couvrir un pauvre. Voilà. Et c'est l'épisode le plus connu de la vie de Saint-Martin, qui était dans l'armée romaine. Qui était soldat de l'armée romaine, et il faut savoir que l'armée romaine donnait l'équipement aux soldats, mais la moitié de cet équipement appartenait, d'une part, une moitié à l'armée romaine, mais l'autre moitié appartenait aux soldats. Mmh. Et donc c'est pour cela qu'il partage son manteau en deux, il donne sa part aux mendiants.
D'accord. Et nous apercevons quand même l'œil du cheval un peu inquiet.
Et oui, peut-être, mais enfin, l'atmosphère est très obscure. Mm-hmm. Ça a l'air d'être la nuit. Mm-hmm. Il a peut-être neigé aussi. Enfin, c'est un peu sombre et un peu. On sent le froid, alors que le mendiant est nu à droite, quasiment nu. Il a juste un linge autour des reins et des bandelettes autour des chevilles. On sent le froid qui le perce. Il a un bâton, il s'appuie dessus, il est à genoux, sur un genou devant le cheval et devant le futur Saint-Martin, et il accepte évidemment ce manteau avec bonheur parce que ça va quand même lui permettre de survivre. Il est d'ailleurs sur de la paille de seigle peut-être, ou de sorgho. Et voilà. Alors ce tableau est signé d'un certain E. Corbet et daté de 1848. Je n'ai pas trouvé ce peintre. Je ne sais pas qui c'est. Il ne faut pas le confondre avec Courbet, Gustave Courbet, qui était de la même époque. Mais voilà. Si quelqu'un connaît ce peintre, voilà, je serais ravie de l'apprendre.
Deuxième appel lancé depuis l'église de Bégousse. Un pour des photos anciennes et deux pour ce peintre Corbet, s'il est connu. Voilà. Alors Bernard, vous vouliez rajouter quelque chose?
Par rapport à Saint-Martin, parce que les gens de Bégousse sont très attachés à l'église de Saint-Martin et à la fête votive. Pendant très longtemps, la fête votive de Bégousse était donc le 11 novembre, jour de la Saint-Martin, que l'on fêtait. Les gens se réunissaient à l'intersection de la nationale 911 pour danser, d'ailleurs. Et donc, la fête était vraiment marquée. Ensuite, elle a été déplacée au dernier dimanche d'août pour des raisons de commodité, parce que le 11 novembre, il fait pas toujours très beau. Et depuis quelques années, avec le comité d'animation du village, les associations, on relance un repas de village pour le 11 novembre, pour la Saint-Martin.
C'est quelque chose
de sympathique qui est retrouvé.
Bon, j'espère que vous pourrez le faire dans les années qui viennent, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui s'annulent.
Depuis deux ans, ça n'a pas été très commun.
Voilà. Alors, dans cette chapelle, Bernard, on aperçoit au sol quelques petites, je dirais pas pierres, mais de la terre rouge ou quelque chose de cet ordre. Et lorsque nous levons les yeux, il y a un petit problème dans cette chapelle.
Oui, alors justement, la toiture de l'église est en très mauvais état, et particulièrement la toiture des deux chapelles, qui est imbibée d'eau, à tel point que la mairie a pris d'ailleurs un arrêté interdisant de l'accès aux chapelles tant que les travaux ne sont pas faits.
Effectivement, donc il y a des chaises qui sont à l'entrée des chapelles pour interdire l'accès, en attendant qu'il y ait cette réfection attendue. Et on espère que pour vous, que ça se fera dans les plus brefs délai. Je reviens au fait votif dont vous parliez tout à l'heure. Avant l'émission, vous nous expliquiez quelques petits événements croustillants de ces fêtes votives.
Effectivement. Alors toujours Michel Sélarier raconte que juste avant la Révolution, l'évêque de Cahors, qui s'appelait Nicolaï, évêque et comte de baron de Cahors, enfin, avait pris une décision, je sais pas comment dire, un mandat de l'évêque, interdisant dans tout le diocèse, demandant au curé que toutes les fêtes votives soit fêté le troisième dimanche après Pâques. Mmh. Que l'on habite dans quelques parties du diocèse que l'on habite, toutes les fêtes votives seraient le troisième dimanche après Pâques. Alors ça a provoqué bien sûr un tollé, ça n'a jamais été respecté, et c'est la Révolution justement qui est revenue sur cette décision.
Ah, voilà.
Mais Sélarié a des mots très durs par rapport à cette décision de l'évêque, parce que les gens étaient viscéralement attachés à leur fête votive.
Et oui, mais ça on peut comprendre également.
Alors il raconte qu'à l'époque, il y avait 4 ou 5 messes, plus les vêpres, etc. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui.
Ça, c'est sûr. Alors, Bernard, en compagnie de Marie-Madeleine et de Jean, nous allons vers le vitrail de la Vierge. Alors, ce vitrail de la Vierge et cette chapelle de la Vierge est à gauche du chœur. Lorsque nous sommes face au chœur, voilà, nous passons au milieu des chaises. Et nous arrivons donc dans cette chapelle. Alors, cette chapelle, on voit tout de suite à gauche comme une porte ou un renfoncement,
oui,
Bernard.
Oui. Alors certainement au XIXe siècle, après l'agrandissement de l'église, il y a eu une ouverture qui donnait vers l'extérieur, hein, vers la venelle qui est à l'extérieur. On ne sait pas du tout quand elle a été fermée.
D'accord. Alors c'est une très belle chapelle également en pierre apparente qui est également demande à être refaite parce qu'il y a des petites choses qui tombent du haut. Oui, Bernard.
Tout à fait, c'est pareil. Et je voulais simplement dire que la venelle qui passe derrière, qui est très étroite, avait son importance pour la vie du village parce que à la base il y a du grès de Figeac et on voit très bien que les gens utilisaient ce grès comme pierre meulière. On voit la trace des lames de faux ou des lames de couteau que les gens venaient aiguiser justement sur les murs de l'église.
Hein. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Alors, en parcourant cette chapelle, nous apercevons tout de suite un vitrail. Alors, le vitrail, je lis tout de suite l'inscription « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, Marie-Madeleine.
Eh oui, c'est la fameuse phrase qu'a prononcée la Vierge d'abord à Sainte Bernadette, en patois, mais que Sainte Bernadette a répété au curé de Lourdes, sans savoir ce que ça voulait dire. Et c'est à partir de là que le curé s'est demandé quand même, mais cette petite, elle ne l'a pas inventée. Et donc, à partir de là, est partie, évidemment, toute la procédure pour faire accepter le miracle de la vision de la Vierge. Alors, c'est un vitrail, donc, comme celui de Saint-Martin en face, de 1896, qui est un don de la paroisse de l'époque, et qui représente donc Sainte Bernadette à genoux, tendant son chapelet à la Vierge qui lui apparaît dans la grotte de Lourdes, la Vierge toute illuminée d'un halo de lumière derrière, tout rayonnant, et une Vierge très jeune, habillée de blanc et de bleu comme il se doit. Et la petite Bernadette a son costume traditionnel béarnais, et on voit bien la grotte et le fagot qu'elle portait pour aller chauffer sa maison.
Alors Bernard, on voit une inscription, je vous laisse le dire, c'est comme tous les vitraux et beaucoup de vitraux dans les églises, c'est un don également.
Et
là voilà, c'est un don voilà paroissien de la fin du 19e siècle.
Et d'ailleurs dans le livret de paroisse qu'on peut consulter aux archives diocésaines, là je l'ai plus en tête, mais on a le prix qu'a coûté le vitrail. Et la liste des souscripteurs.
D'accord. Voilà. Ah, ça c'est effectivement, c'est très.
Et c'est une époque d'ailleurs où il y a plusieurs mentions. Les paroissiennes d'Aigouze faisaient beaucoup de dons à leur église, notamment les communions d'une année qui offraient un chandelier, etc. On a trace les femmes qui offraient des tentures, des draps mortuaires notamment, etc. C'est intéressant de voir toute la vie autour de l'église.
Absolument, absolument. Alors, à la droite de ce vitrail, nous apercevons dans la pénombre et dans une niche, alors est-ce que c'était un vitrail à l'époque? Mais en tout cas, il y a une statue, alors une représentation Marie-Madeleine que nous avons peut-être vue dans une autre église, pas du tout sous la même forme ni de la même façon, mais qu'est-ce qu'elle représente?
C'est une Pietà, c'est-à-dire la Vierge de douleur qui reçoit sur ses genoux le corps de son fils Jésus descendu de la croix. Mm-hmm. Donc cette statue est en bois. Et donc la Vierge est assise et le Christ est sur ses genoux, donc avec une couleur cadavérique, hein, puisqu'il est mort. Il a la trace des clous sur ses pieds et ses mains. La main de la Vierge se pose presque sur la blessure du côté, sur le coup de lance. Et alors, je suis un peu dans l'expectative pour dater cette statue, parce que sa raideur, la raideur de la facture me rend perplexe, voilà. Et pourtant, le Christ a un visage très moderne. Alors, je ne sais pas trop la situer, franchement.
D'accord, donc ce serait intéressant effectivement de creuser pour savoir un petit peu la datation de cette Pietà. Et complètement à droite de la Pietà, alors je vous avais posé la question au tout début quand nous sommes arrivés, qu'est-ce que représente cette porte?
Alors, cette porte ouvre sur un local annexe de l'église que les gens du village connaissent sous le nom de local du Corbillard.
D'accord.
On peut l'ouvrir, mais les marches sont tout de suite.
Ah, voilà, nous allons découvrir quelque chose derrière la porte, voilà, que nous ouvrons. Voilà. Ah oui, il y a quelques marches, voilà. Mais on ne va pas...
Le corbillard, il y a une porte cochère qui permettait de rentrer le corbillard,
oui. Donc,
et de
oui,
l'utiliser à bon escient.
D'accord, il ne sert plus maintenant, je pense. Non,
hein, si j'ai... Le corbillard.
Voilà, si j'ai bien. Donc c'est tout de noir, et effectivement, la porte qui est au fond donne vers l'extérieur, et c'était la tente pour voilà. Le corbillard. Merci beaucoup de nous avoir ouvert cette porte, et de nous avoir fait découvrir cette particularité, qui ne se trouve plus dans les églises d'ailleurs, hein, actuellement. Et nous allons continuer notre visite dans ce qu'on peut appeler la nef de cette belle église de Bégousse. Alors il y a sur la droite un tableau, Marie-Madeleine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce tableau qui est très coloré de rouge?
Alors il est très coloré de rouge et c'est probablement une copie d'un tableau 17e et qui relate l'épisode de la femme adultère. Et donc on voit cette pauvre femme qui est à genoux, les mains jointes, suppliante, devant Jésus, qui se retourne vers elle. Mais autour, eh bien, nous voyons beaucoup de personnages, des vieux, des jeunes, et Jésus va leur dire que le premier qui la condamne prenne la pierre et la lapide, hein. Mm-hmm. Voilà, et bien tous repartent en commençant par les plus vieux,
oui, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre,
voilà. Mm-hmm. Hein, c'est ça, exactement,
voilà. Donc avec du rouge, des personnages,
oui, c'est très coloré,
voilà.
La jupe de la pécheresse, disons, de l'adultère, de la femme adultère, est jaune, et le jaune est quand même assez mal vu, hein. Le jaune, Judas est en jaune, hein, c'est un peu la trahison, le péché, voilà, c'est voilà.
Très bien. Alors Bernard, nous allons terminer par quelque chose de particulier dans les églises, mais avant de nous rendre à nouveau dans le fond, nous passons devant le chemin de croix, on va dire, mais un chemin de croix avec que des croix, et oui. Vous allez nous expliquer un petit peu l'historique de ce chemin de croix.
On a déjà parlé effectivement de la restauration de l'église, du décapage de l'église pour mettre les pierres à nu. Dans les années 70.
Absolument.
Et à cette époque-là, le chemin de croix a été fait par un habitant du village, a été offert par un habitant du village, menuisier, et donc qui a offert un chemin de croix à l'église, un chemin de croix très, très sobre,
hein, de simple croix de bois. Parce qu'il est, voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Mais très beau.
Il est des années 70, du moment de la restauration de l'église.
La sobriété, d'ailleurs, c'est ça qui ressort, c'est ce qui rend sobre, ce chemin de croix intéressant.
Et puis, à l'époque, c'était l'âme de solidarité autour de l'église, parce que les gens, après leur travail, venaient ici, sur le chantier. Je crois qu'il y avait, c'était un maçon d'Arcambal, Monsieur Coudert, qui menait le chantier d'Arcambal et de Bégour, mais les gens venaient le soir, ou le week-end, travailler.
D'accord. D'accord, oui, il y avait une grande ferveur autour de l'église.
Avec de bons souvenirs, d'ailleurs, de repas partagés, puis après, etc. Heureusement, il y avait le côté festif, mais ce sont les habitants qui ont restauré leur église. Un jour, parce que je connais encore des personnes qui ont participé et qui l'évoqueraient volontiers.
Ah oui, effectivement. Voilà. Alors, nous terminons, Bernard, par les cloches.
Oui.
De Bégous. Alors, vous avez quelques informations, je
corrige.
Crois.
Voilà. La cloche.
La cloche. La cloche. Pardon, la cloche.
Alors, cette cloche a été fondue en 1815. Et l'église de Bégous était restée 20 ans sans cloche. La cloche précédente, qui datait de 1660, c'est précis, avait été déposée à la Révolution. J'ignore trop pourquoi. Et une nouvelle cloche a été fondue en 1815 par un artisan fondeur de l'Albenque.
Ah oui, voilà. Très bien. Oui, effectivement, au niveau des fonderies...
Nous avons une seule cloche.
Voilà. Oui, d'accord, parce qu'on voit une seule corde de toute manière.
Alors, on a le nom du parrain et de la marraine, mais il y a une inscription dessus. Je crois qu'une photo a été prise, mais je n'ai pas relevé l'inscription latine qui est sur la cloche.
D'accord. D'accord, oui, effectivement, l'art campanaire est très prisé également par pas mal de touristes, et il est intéressant d'avoir des explications sur les cloches qui ne sont pas simplement là que pour sonner, elles ont une histoire aussi. Et vous parliez de fonderie de cloches de l'Albenque.
Alors le fondeur était à l'Albenque, oui.
Oui, il existait au XIXe siècle énormément de fonderies de cloches en France. Oui. Il n'en reste plus que deux véritablement grandes fonderies, on va dire. Celle de Villedieu-les-Poêles et la fonderie Paccard du côté d'Annecy. Voilà, bah écoutez, nous terminons cette émission dans l'église de Bégous, magnifique église Saint-Martin de Bégous, et surtout, n'hésitez pas à donner des explications si vous en avez, ou à donner des détails à Bernard Miguerou qui est là pour relever toutes ces informations. Merci Bernard.
Merci à vous tous.
Voilà, merci Marie-Madeleine.
À bientôt, au revoir.
Et merci Jean. Merci de nous avoir accompagnés pour ces deux émissions. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à une prochaine fois pour une nouvelle balade des églises du Lot. Au revoir, chers amis.